santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, à l'émission, je vous parle du programme PIED. PIED pour Programme intégré d'équilibre dynamique, qui est un moyen efficace de prévenir les chutes, notamment chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et de leur assurer une meilleure santé globale à moyen et long terme. Tout ça avec Carole Genet. Elle est répondante régionale du côté du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Aussi avec Marc Saint-Onge, directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. On discute de la promotion de loisirs de qualité. Et ce que l'on entend par loisirs de qualité, c'est des loisirs qui sont éducatifs, qui sont sécuritaires, qui sont stimulants, valorisants. Tout ça pour les personnes en situation de handicap. En deuxième partie avec Marc Saint-Onge. Aussi une entrevue sur la danse-thérapie et ses nombreux bienfaits avec Christian Sénéchal. Il est directeur du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens de Montréal. Vous allez voir une initiative qui est extrêmement novatrice. Et dans à peu près 8 minutes, tout savoir pour composer avec les turbulences, oui, à l'adolescence. Parce que oui, il y en a des turbulences à l'adolescence. C'est un tout nouveau livre d'Isabelle Geninet et Amélie Seda. Elles sont tous les deux psychologues cliniciennes conférencière et auteur de ce livre paru chez Midi 30. Mais tout juste avant, on se tourne vers Martin Forgue, recherchiste de cette émission pour sa revue de presse Santé de la semaine. Martin Forgue, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là pour nous présenter cette
toujours
revue de presse.
Un plaisir.
Ce qui retient votre attention cette semaine, est-ce que j'ai la feuille de la revue de presse de la semaine? Bon, je sais qu'il y a une coalition là, qui s'est créée. Je la retrouve dans l'Est du Québec, coalition syndicale qui a été mise sur pied pour préserver le réseau de la santé et les différents services.
C'était bien parti parce que vous aviez effectivement la première nouvelle déjà d'emblée.
En tête,
donc, c'est parfait.
Voilà.
Donc, oui, vous le mentionnez, une coalition syndicale qui a été formée dans l'Est du Québec pour lutter pour la sauvegarde de l'amélioration du système de santé publique au Québec. On sait évidemment que c'est un système qui est toujours qui croule toujours sous le poids des politiques d'austérité, des différentes coupures. Et là, c'est une alliance entre le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil régional de la Fédération des travailleurs du Québec, donc la FTQ. Et c'est une coalition, vous le mentionniez en préambule, dans l'Est du Québec, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, qui sont les régions qui sont concernées. Et bon, le directeur du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Rangé, le directeur québécois, qui affirme que les compressions des derniers mois ont déstabilisé l'organisation du travail dans le réseau de la santé. Et bon, on déplore également qu'après avoir coupé, on décrit évidemment ces coupes de manière sauvage, eh bien, on réinvestit toujours un peu à la miette, on fait des petites annonces à gauche, à droite, et ça devient un peu un écran de fumée qui masque un peu la vérité derrière, justement, l'état réel du financement du réseau de la santé. Et c'est dans ce but-là que cette coalition voit le jour et qui concentrera donc ses activités dans l'Est du Québec.
Maintenant, une nouvelle pour le moins inusitée qui nous vient de l'Hôtel-Dieu de Québec. Un patient y aurait été traité pour la lèpre.
Ça frappe l'imaginaire un peu quand on regarde ça. De prime abord, la lèpre, ça vient chercher un peu l'imaginaire qui est presque biblique. Hein? Donc, une maladie qui remonte à des temps très anciens qu'on pense éradiquer, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, un cas qui a été recensé à l'Hôtel-Dieu de Québec. On dit que le patient a été diagnostiqué en 2016, possiblement à l'automne. Les informations semblent partielles parce qu'on tire l'information, c'est-à-dire le Journal du Québec tire l'information du registre des maladies à déclaration obligatoire, puisque bon, la lèpre en fait partie. Et donc, le patient a été traité, a été reçu en clinique externe, a été traité également, n'a pas été hospitalisé par contre, donc n'a pas séjourné à l'hôpital. On rappelle, parce qu'évidemment, ça peut venir jeter certaines craintes. Est-ce
oui,
que la lèpre fait un retour? Parce qu'évidemment, c'est une maladie infectieuse qui est contagieuse à certains jusqu'à un certain point, bon, transmise par les crachats, par la toux. On mentionne par contre que c'est beaucoup moins contagieux que d'autres maladies aussi graves comme la tuberculose, par exemple. exemple. Et on rappelle aussi que le traitement qui existe, qui a été développé en 1981, est très efficace. Bon, c'est un traitement qui dure de 6 à 12 mois, il faut le rappeler. Donc, si jamais... dans le cas du patient qui a été diagnostiqué, c'est un traitement qui est très long. Mais si on regarde un peu l'historique des déclarations, c'est pas le premier cas récent de lèpre. Il y a un autre cas qui a été déclaré dans le rapport annuel de 2015 de la Vigie des maladies à déclaration obligatoire. Le rapport 2014 fait état de deux autres cas qui avaient été répertoriés également. Et à titre comparatif, il y a eu 5 cas de botulisme, 1 cas de choléra. Donc, c'est des maladies qui, même si sont très, très rares, sont en bon fond encore une apparition
Il y a la syphilis aussi qui, depuis quelques années, est revenue.
Oui, c'est quand même assez... quand même assez inusité, mais bon, évidemment, pas de quoi s'inquiéter nécessairement. Ça reste des cas très rares, mais en même temps, ce type de nouvelles, vous le disiez, c'est un peu inusité. Ça vient nous rappeler un peu l'existence de ces maladies.
Oui. Maintenant, on se plaint souvent, Martin, du manque de ressources, du manque de services, notamment en santé mentale. Et là, une bonne nouvelle du côté de Drummondville, un service qui s'ajoute, une ressource là, qui a été créée pour les gens qui vivent avec de graves problèmes de santé mentale.
On l'appelle ressource de traitement et de réadaptation intensive pour personnes présentant un trouble grave en santé mentale. C'est une bonne bouchée hein, comme nom. Donc, c'est une ressource qui est décrite comme unique au Québec, qui s'implante dans la région de Drummondville. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette nouvelle ressource, Marianne, bon, on dit implantation très récente, mais depuis 2014, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'implanter ce type de projet-là depuis 2014. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sollicite énormément la famille, la communauté. On privilégie un rétablissement et un traitement en milieu communautaire, en milieu familial. Et ça vient un peu souligner, hein, on parle souvent de la ségrégation dans le cas des traitements, de l'isolement des patients présentant des cas de santé mentale. Et là, on vient un peu essayer on s'inspire beaucoup de cette philosophie de traitement un peu plus communautaire, et c'est ce qui rend la démarche un peu plus unique en son genre, bon, dans le cas de traitement de la santé mentale. Et bon, on prévoit que 25 usagers de la région de Drummondville bénéficient annuellement de ces services-là. Et les trois premiers intégreront le milieu mardi qui suit. Donc, on pourra suivre ça, si jamais ça pourrait être intéressant.
Tout à fait. Et en terminant, Martin, une nouvelle du côté de l'international maintenant, des efforts mondiaux pour éradiquer l'utilisation de mercure dentaire. On parle ici des amalgames dentaires. Hein?
Oui, amalgame dentaire, bon, évidemment, un nom très scientifique pour dire plombage, finalement.
Voilà.
Donc, donc c'est une coalition internationale dirigée par l'Académie internationale de médecine bucco-dentaire et de toxicologie, qui est un organisme à but non lucratif, bon, qui soutient ces efforts, qui est un peu la figure de la tête de proue de ces efforts-là. Et on rappelle par le fait même que le mercure est encore un matériau qui est utilisé dans la confection des plombages. Et le nom, évidemment, bon, porte un peu à confusion puisqu'il n'y a pas de plomb qui est utilisé. Évidemment, ce n'est pas le même type de mercure qu'on retrouve, par exemple, dans le poisson. Donc, c'est un mercure qui est un peu moins toxique, parce qu'évidemment, il ne faut pas nécessairement partir en peur par rapport à ça, mais on veut quand même, on cherche quand même à promouvoir les alternatives à ce matériau pour éventuellement
les impacts sur la santé, ou du moins on commence à la découvrir, on se doute qu'il pourrait y en avoir.
Oui, tout à fait, et il y a un aspect très préventif à cet effort-là, et on explore évidemment les matériaux alternatifs, et c'est, on s'appuie sur des centaines d'études selon la dépêche de l'organisme là, pour appuyer la démarche.
Martin Ford, toujours un plaisir, merci beaucoup.
Bonne semaine.
Isabelle Geninet, bonjour.
Bonjour.
Amélie Seda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux psychologues, cliniciennes, conférencières et auteurs de ce nouveau livre paru chez Midi 30, Tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence et révéler l'être génial, fantastique et exceptionnel que tu es. Une proposition que je trouvais plutôt originale parce qu'elle ne s'adresse pas aux parents d'adolescents, ni même à leurs enseignants ou à des professionnels de la santé, mais vraiment directement aux adolescents, adolescentes. Pourquoi ce choix?
Bien, je vous dirais déjà d'emblée, il existe quand même beaucoup d'ouvrages pour justement les parents, les enseignants. C'est sûr que ce livre-là peut être utile aussi pour cette clientèle, mais on trouvait justement qu'il y avait peu d'ouvrages où on ciblait directement les jeunes. On voulait vraiment pouvoir parler directement aux jeunes pour leur donner vraiment des outils concrets là, pour mieux composer avec les turbulences là, de cette période.
Oui, j'imagine que c'était à quelque part un défi parce qu'on doit intéresser les jeunes à lire l'ouvrage. Et il y a une recherche dans le vocabulaire utilisé. Ça m'a bien fait rire à un moment donné dans le livre. On utilise l'expression bien connue des ados, LOL. Donc, il y a eu bon, ce souci-là d'aller les intéresser par le propos, mais par la forme aussi.
Oui, je vous dirais, en fait, on voulait vraiment faire un ouvrage qui était alléchant pour le jeune, avec vraiment des exemples, des images qui leur parlent, parce qu'on sait que c'est pas une clientèle qui est facile à rejoindre. Ce sont des gens qui ont leurs exigences aussi, évidemment. Donc, on voulait pas faire un ouvrage de ma tante, excusez-moi l'expression. Donc, c'est ce qui a effectivement motivé notre choix de rendre ça, je dirais, ludique au niveau de la forme. Oui.
Mais ça fonctionne beaucoup, les filles. Je dirais, on sent pas du tout l'ouvrage de ma tante, justement. On sent aussi que vous avez eu envie de vous mettre dans la peau de ces jeunes-là, ou du moins très près d'eux, de vous rappeler ce que vous aimiez, ce que vous faisiez à l'adolescence. C'est une période qui est caractérisée, oui, par des turbulences, vous le dites dans le titre, et qu'on associe souvent à la crise. Mais c'est plus nuancé que ça, l'adolescence.
Effectivement, je dirais qu'il y a un peu le mythe de la crise d'adolescence qu'on entend souvent, mais il faut savoir qu'il y a environ peut-être 15% des jeunes qui vont vraiment vivre des difficultés, disons, qui se démarquent un peu de l'adolescence normale, donc des problèmes de consommation de drogue, de l'intimidation. Cela dit, l'adolescence, c'est une période aussi où on construit notre identité, et donc il y a des enjeux là, qui se font à cette époque-là, à ce moment-là de la vie. On est tiraillé entre le désir d'autonomie et le besoin d'ancrage. Il y a le rapport au corps qui change, le jugement des pères. Évidemment, c'est les premières amours. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour le jeune, le présent est extrêmement important. Tout est vécu avec une forme d'intensité. Et des fois, c'est toujours un peu surprenant comme adulte, parce qu'on regarde ça et on dit, mon Dieu, la peine d'amour, la peine d'amitié, il va s'en remettre. Il ne s'en souviendra plus dans 2 ans. Mais pour le jeune, c'est primordial. Tout ce qui se joue maintenant a une importance vraiment accrue. Ça, c'est important de comprendre ça. Je vous dirais aussi que peut-être ce qui est différent à notre époque, parce que tous ces changements-là à l'adolescence sont documentés depuis les années 50. Il y a beaucoup de choses qui demeurent stables au niveau des changements qu'on dit normaux. En 2000, disons, dans les années où la technologie est reine, je vous dirais qu'il y a des enjeux de plus qui se rajoutent. Je pense que le danger, c'est d'en venir à surinvestir un peu toutes ces plateformes-là virtuelles et de préférer finalement le personnage Facebook ou le personnage Twitter qu'on se crée plutôt que le vrai moi. Donc ça, c'est une particularité de notre époque. L'autre particularité aussi, c'est peut-être toute la pression sociale à la performance. On a juste à regarder le cursus académique des fois de certains jeunes, la comparaison. Les jeunes n'y échappent pas à cette course à la performance là, non plus.
Oui. Ce qu'il y a de peut-être différent aussi, si je me ramène à moi, mon adolescence, peut-être également à la vôtre, c'est les outils qui sont plus diversifiés. Et on a parlé aussi dans les dernières années davantage de santé mentale. C'est un peu ça aussi que vous aviez envie de livrer ou de témoigner, en tout cas du moins la façon dont je l'ai perçu, c'est que la santé mentale, le bien-être, c'est aussi la responsabilité de l'ado, du futur adulte, de la prendre en charge. Et ça passe beaucoup par la connaissance de soi-même.
Bien, tout à fait. Je pourrais vous dire, notamment, si parmi les objectifs de notre livre, c'était justement ça. C'était de viser vraiment la promotion de saines habitudes. Hein, on est psychologue en pratique privée auprès d'adultes, auprès d'ados également. Mais on observe beaucoup chez les adultes qui viennent consulter, des fois, des mauvais plis qui s'installent. Alors, on voulait toutes les deux, justement, peut-être pouvoir offrir des outils concrets aux jeunes, puis semer plus plutôt des saines habitudes. Donc, c'est un livre qui vise beaucoup la promotion puis la prévention de saines habitudes face à l'anxiété, face aux inquiétudes, par rapport aux émotions. Et on avait beaucoup aussi comme objectif de démystifier aussi l'anxiété, démystifier tout ce qui peut être les inquiétudes pour en quelque sorte normaliser aussi ces hauts et ces bas-là qu'on peut vivre au quotidien. Donc, pour pas nécessairement, si vous me permettez l'expression, surpathologiser, si on veut, mais d'amener à leur donner de l'information aussi pour démystifier, apprendre à mieux se connaître et par la suite, après ça, bien, pouvoir mieux intervenir.
Oui, et aussi de leur donner des outils très concrets parce que il y a des étapes peut-être avant d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter un psychologue, il y a des choses que l'on peut faire peut-être par soi-même et des outils que l'on peut se donner pour mieux traverser des périodes difficiles. Vous en donnez quelques-uns de ces outils dans le livre.
Tout à fait. Je pourrais vous dire parmi les deux principaux qui sont quand même à la base des autres stratégies. On parle notamment, on fait l'acronyme avec d'aider le jeune à être solide comme le roc. Donc, on prend l'acronyme ROC pour ralentir, observer et mieux choisir. Donc, en quelque sorte, quand on vit un moment difficile, juste prendre quelques instants pour ralentir et observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que ma tête est en train de me dire, qu'est-ce que je ressens comme émotion et je m'apprête à faire quoi comme action. Donc, d'amener, plutôt que d'être tout de suite sur le mode pilote automatique, d'apprendre à avoir quelques instants pour prendre un certain recul, ce qui va nous aider par la suite à mieux orienter notre choix d'action et s'assurer que vraiment les actions que l'on va prendre, que le jeune va prendre, est vraiment en accord avec la personne qu'il veut être par rapport à ses valeurs, ce qui est important pour lui ou pour elle, plutôt que d'agir sur l'impulsion de l'anxiété, de la peur, de la colère, etc. Donc, les aider à amener à faire des meilleurs choix et aussi, je dirais, de résister à la tentation de lutter contre les inconforts, qui ça est vraiment un piège qui nous guette tous, adultes inclus aussi, pour les jeunes aussi, mais cette idée-là que dès qu'on ressent un inconfort, souvent le premier réflexe, c'est d'essayer de lutter contre un inconfort, puis on sait que ce qu'on résiste persiste.
Oui, et c'est intéressant que vous le souligniez parce que le livre s'adresse, bien sûr, aux ados, on le sent, c'est le premier public cible qui est mis de l'avant, mais en même temps, je pense qu'il pourrait être dans ma bibliothèque et être un outil aussi pour moi. Il est fait aussi pour faire du bien à tout le monde. Il y a un passage qui m'a beaucoup, je dirais, éclairé et qui démontre qu'on doit être notre meilleur ami. Le passage d'un ado qui a fait peut-être des mauvais choix, problème à l'école, problème au boulot, dans ses relations interpersonnelles avec ses parents. Et il décide, il rencontre un voisin, en fait, qui l'amène à se confier et qui lui demande « qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre ?» Et simplement d'exprimer, cet ado a exprimé ce qu'il aimerait entendre. Et simplement, cette phrase l'aide à se sentir mieux. C'est aussi ce que vous avez envie de laisser, on est notre meilleur ami, ou du moins, on doit devenir notre meilleur ami.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est souvent quelque chose qui nous apparaît contre-intuitif. Se parler avec bienveillance et avec compassion, on a beaucoup l'idée que quand on a des difficultés, il faut un peu se fouetter, là, ou le fait de se botter le derrière, entre guillemets, ça va nous aider à avancer. Et ce qu'on dit souvent, c'est un ami qui vivrait le même genre de difficultés, probablement qu'on serait bienveillant à son égard. Donc, développer le réflexe d'avoir cette propre bienveillance-là envers nous-mêmes et cette petite question qui semble simple et banale en soi peut vraiment être aidante et nous vraiment nous arrêter et vraiment justement nous amener à poser un geste qui va être bon pour nous. Et ce qu'on sait, c'est que les gens qui parviennent à se consoler eux-mêmes sont généralement des gens qui passent mieux à travers les moments difficiles de la vie. Et souvent, les gens voient ça comme un peu de la complaisance, là, tu sais, si je suis trop fin avec moi, si je suis bienveillant, je me complais dans ma situation, mais pas du tout. Et je voudrais que c'est souvent contre-intuitif parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à faire ça, même comme adulte.
Ouais.
Et donc, ça peut être une bonne chose à essayer.
Oui. Encore plein de choses que j'aurais aimé pouvoir aborder avec vous, mais on n'a déjà plus le temps, Isabelle et Amélie. Isabelle Genet, Amélie Seda, je rappelle, vous êtes psychologue, clinicienne, conférencière et auteure de ce nouveau livre « Tout savoir pour composer avec les turbulences à l'adolescence » paru chez Midi30.ca. Merci beaucoup.
Merci à vous, Marianne.
Merci à vous, Marianne.
Bye-bye.
Bye-bye.
Bye-bye. Avec lui, on parle d'une initiative extrêmement novatrice. Christian Sénéchal, directeur du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens de Montréal. Bonjour, Christian.
Bonjour, Mme Paquette. Vous allez bien?
Oui. Et vous, je sais que vous êtes un petit peu enrhumé. Merci d'être là tout de même avec ce petit virus qui vous suit, Christian Sénéchal. Je dis initiative novatrice parce que l'inauguration de ce centre de danse-thérapie, c'est assez unique au monde, je pense.
Bien, on est unique de deux façons. Premièrement, on est la seule initiative culturelle à être initiatrice ou investigateur de ce type de projet-là. Deuxièmement, on est unique dans le sens où on réunit trois grands axes, c'est-à-dire, oui, bien sûr, on veut faire mettre en place des services de danse-thérapie et de danse pour le mieux-être, mais on fait aussi de la formation à cet égard-là et on participe à la recherche clinique.
Oui. Ça a été inauguré en 2013. En 2017, bon, depuis quelques jours, Christian Sénéchal, quels sont les grands défis qui vous attendent?
Le défi principal, je vous dirais, c'est une question de financement pour nous, parce que bien qu'il y ait énormément d'ouverture de la part des institutions de la santé et des chercheurs pour documenter les effets de la danse, c'est des pratiques qui sont rarement couvertes par nos assurances.
Ouais.
Donc, il faut, même lorsqu'on travaille avec des grands partenaires comme Sainte-Justine, par exemple, ou comme l'Institut Philippe Pinel, il faut faire faire de la recherche de financement, autant de la part des institutions partenaires que nous-mêmes pour être capables d'offrir les services gratuitement aux différentes clientèles qu'on touche.
Mm-hmm. Dans les différentes missions du Centre national de danse, il y a, bon, bien sûr, la promotion de la danse comme un outil de mieux-être, de bien-être, mais aussi, et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, de remettre en lumière ou de mettre en lumière l'utilité de l'art, de la danse, qu'on oublie parfois. On entend souvent, Christian Sénéchal, que la danse, c'est l'enfant pauvre, des autres formes d'art. Il y avait une façon aussi de redonner autant à vos artisans, mais à cette forme d'art-là, avec le Centre national.
C'est intéressant ce que vous dites. Quand on a fait le lancement en 2013, il y a quelqu'un du Conseil des arts du Canada qui nous disait, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que, bon, quand on regarde une voie anthropologique, l'humain a toujours dansé. Je veux dire, dans les cavernes, on dansait. Il n'y a pas si longtemps, au Québec et au Canada, on dansait pour les mariages, pour les funérailles, pour les baptêmes, pour toute célébration. Et à un moment donné, on a formé des conseils des arts, des institutions culturelles, il y a 50, 60 ans, et on a sorti la danse des salons, des familles, et on l'a mis sur scène.
Mm-hmm.
Et depuis ce jour-là, la danse est devenue quelque part un acte passif où on observe la danse. Cette dame-là disait, c'est intéressant avec une initiative comme ça, on ramène la danse au cœur des gens.
Oui, un acte passif, mais presque élitiste aussi.
Oui, je suis d'accord.
Et maintenant, vous avez envie de redonner ça au grand public. Il y a des clientèles visées par la danse-thérapie chez vous, Christian Sénéchal, ne serait-ce que des personnes âgées, j'imagine, parce que vous avez une collaboration avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Oui, entre autres. Comment on a fonctionné pour des raisons d'accessibilité, comme je disais tout à l'heure, on a décidé plutôt que de commencer avec un service offert au grand public, en commençant, on a voulu faire affaire avec des institutions de santé, en se disant que bon, peut-être que si les médecins et les professionnels de santé travaillent avec nous et décident d'utiliser la danse-thérapie dans leur offre de service, on va être capable de l'offrir un plus grand nombre possible. Donc, dès le départ, on s'est mis dans un positionnement où on laissait le choix aux organisations partenaires de choisir les différentes clientèles.
Mm-hmm.
Fait que le choix, c'est pas fait par nous, mais c'est fait par les clientèles institutionnelles. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, autant, oui, avec des personnes âgées à l'Institut de gériatrie de Montréal, mais on travaille avec des jeunes, soit en milieu scolaire, soit des centres jeunesse de Montréal, milieu carcéral avec l'Institut Philippe Pinel. On travaille beaucoup avec Sainte-Justine, où on essaie de développer différents partenariats. Fait que c'est vraiment toute clientèle visée, tout groupe d'âge confondu. Je vous dirais que ce qu'on essaie de faire avant tout, c'est d'intégrer nos danse-thérapeutes au sein d'équipes multidisciplinaires.
Mm-hmm.
Fait que donc, on laisse le choix vraiment aux professionnels de la santé avec qui on devrait travailler puis comment on bâtit des projets en commun.
Quels ont été les bienfaits rapportés là, depuis 2013? Vous avez eu des retours, j'imagine, autant de vos thérapeutes que des professionnels de la santé en place.
Bien, ça dépend des problématiques qu'on touche, mais souvent, on va parler de socialisation, meilleure confiance en soi. On va parler aussi, au niveau des jeunes, souvent, une espèce de prise de conscience de l'autre. Je prends un exemple concret. Lorsqu'on est à Sainte-Justine avec des jeunes qui sont pris avec des troubles de comportement alimentaire, souvent, même si c'est des thérapies de groupe, ces jeunes-là se retrouvent face à leurs problèmes et désirent rester seuls. On a remarqué que dans les séances de danse-thérapie, lorsqu'on avait des groupes ouverts, quand on accueillait un nouveau jeune, les jeunes qui faisaient déjà partie du groupe ont tendance justement eux aussi à participer à l'accueil et à aider ces jeunes-là qui rentrent dans la session de danse-thérapie. C'est une espèce de prise de conscience des autres et de voir s'occuper de l'autre aussi.
Oui.
Souvent, c'est une façon de communiquer de façon non-verbale une problématique qu'on a. Quand on n'a pas accès nécessairement au verbe ou à la thérapie verbale, la danse-thérapie va donner une autre façon de s'exprimer et va permettre parfois d'avoir accès au verbal.
Oui.
En passant d'abord par le non-verbal.
C'est intéressant ce que vous dites par rapport aux gens qui vivent avec des problématiques liées au poids, parce que la danse amène aussi toute la conscience de notre corps, de l'espace qu'on prend avec notre corps, de la façon dont il nous est utile et qu'il nous fait sentir vivants et bien si on l'entraîne, si on s'en occupe.
Oui. Mais c'est aussi une façon de se retrouver dans son corps.
Oui, oui. Christian Sénéchal, le temps file. Qui sont vos thérapeutes? Est-ce que ce sont vos danseurs qui se réinventent par la danse-thérapie?
C'était un objectif au départ, sauf qu'on voulait, nous, bon, en raison des demandes de nos partenaires régionaux aussi, avoir des gens qui avaient accès à une certification en tant que danse-thérapeute. Je dirais la certification la plus près de nous auquel on a accès, c'est l'American Dance Therapy Association. La formation des danse-thérapeutes est très, très, très longue et très complexe.
Oui.
Pour l'instant, nos danseurs n'y ont pas accès parce qu'on parle d'avoir des cours notamment de psychologie de cycle supérieur.
Mm-hmm.
Donc, nos danse-thérapeutes sont des gens du milieu de la santé qui ont un fort background en danse, par exemple des psychologues, des criminologues, et qui se sont formés à des outils de danse-thérapie.
Grandballet.com pour en savoir davantage.
Voilà.
Christian Sénéchal, vous êtes directeur du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens de Montréal. Merci beaucoup, ça a été un plaisir et prompt rétablissement, Christian.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous. Derrière le micro, Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console pour sa part. Je vous rappelle ce qui s'en vient pour nous tout à l'heure. On discutera avec Carole Genet. Elle est répondante régionale en prévention des chutes pour le programme Pied du côté du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Les chutes, vous savez, c'est assez étonnant là, qui touchent à peu près 13 000 personnes chaque année. Au Québec et, bon, notamment des personnes âgées. Ça a de nombreux impacts sur leur santé globale à moyen et long terme. On parlera de ce programme Pied qui favorise, en fait, l'équilibre et qui permet la prévention des chutes avec Carole Genet. Mais tout juste avant, on se dirige du côté de Marc Saint-Onge. Il est directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Bonjour, Marc Saint-Onge.
Bonjour, Mme Paquette.
Vous êtes à Trois-Rivières, c'est bien ça?
Le bureau est à Trois-Rivières, oui. Mais la QLPH couvre l'ensemble du Québec avec des représentants dans chacune des régions du Québec.
On est ici ensemble, Marc, pour parler de loisirs pour les personnes en situation de handicap. Des loisirs qui se veulent de qualité et ça doit répondre à certains critères pour qu'un loisir soit de qualité pour les personnes en situation de handicap.
Oui, en fait, vous savez, si on s'intéresse aux critères de qualité, ce sont les mêmes que pour tout le monde.
Mm-hmm.
Comme tout le monde, je suis différent. Donc, chacun d'entre nous avons des besoins bien spécifiques. On peut avoir des besoins plus particuliers d'ordre psychologique pour se détendre, par exemple.
Oui.
Je fais une activité de loisir et ce que je souhaite, c'est pouvoir vivre, retrouver ma bonne humeur parce que j'ai eu un moment plus de tension. Donc, il y a des attentes. Qu'est-ce qui fait en sorte que le loisir est significatif dans ma vie et a une contribution très positive? C'est que je puisse le choisir librement. Donc, déjà, en choisissant librement, je mets en valeur ma capacité à prendre des décisions. Je mets en valeur mes attentes, mes priorités. Vous savez, les critères de qualité, c'est un monde assez complexe, en même temps en termes de motivation psychologique, mais aussi en termes de physique. J'ai besoin de faire de l'activité physique parce que je veux retrouver ma forme, oui. Surtout après le temps des fêtes.
Oui, ça, c'est vrai pour tout le monde.
Oui.
C'est intéressant, Marc-Saint-Onge, parce que vous parlez de choisir, d'avoir ce loisir, hein, on parle de ça aujourd'hui, de choisir. Pour choisir, il faut qu'il y ait un choix. Ça ressemble à quoi l'offre en loisir au Québec pour les personnes en situation de handicap?
Vous savez, quand on parle de personnes en situation de handicap, le spectre de clientèle, si on peut l'appeler comme ça, est quand même très vaste.
Oui.
On a autant des personnes qui ont une déficience physique, intellectuelle, tu peux avoir un autisme, tu peux être déficit visuel. Alors, le spectre est très large. Quelle est l'offre? Si on se trouve en milieu urbain plus fortement densifié, tel que Montréal, par exemple, les choix sont beaucoup plus grands que lorsqu'on se retrouve en région, par exemple, lorsqu'on est en Gaspésie et on a très peu d'accès à des transports adaptés. Alors, l'offre, elle est en fonction de chacune des régions. Comment chacune des régions se structure par les organismes communautaires, par les associations avec la municipalité, c'est varié. On peut s'intéresser aussi à qu'est-ce qui fait contrainte ou ce que je préfère, quels sont les facilitateurs à l'activité. Donc, dans l'offre, l'accès à des lieux physiques, par exemple, c'est un facilitateur dans l'offre. Donc, si j'ai accès à la piscine intérieure parce qu'elle est construite selon des principes d'accessibilité universelle, ben, j'y aurai accès beaucoup plus que si cette piscine-là n'a pas de lèvres-personnes, par exemple.
Oui.
Vous savez, donc c'est un peu... Ça, c'est un des facteurs. L'autre élément qui devient intéressant dans l'accessibilité, c'est la capacité d'accueil. Les gens, est-ce qu'ils conçoivent la différence comme étant problématique, comme étant des objets de crainte, hein, jusque-là? Alors, vous savez, l'accessibilité, elle se détermine en fonction de nombreux paramètres. Et je vous dirais, un qui est souvent négligé, c'est celui de la personne elle-même.
Oui.
Moi, c'est trop beau pour moi, je n'irai pas. Je n'ai pas les compétences pour y aller. Vous voyez donc, l'accessibilité peut se définir par l'environnement physique, l'environnement social, mais aussi tous les facteurs personnels.
Mais encore, faut-il semer en cette personne l'idée qu'il a la capacité et les ressources de le faire? Et je pense souvent à mon bon ami Luc Fortin, qui est non-voyant et qui est en apprentissage du tennis en ce moment, parce qu'il y avait une organisation pour l'accompagner dans cet apprentissage-là. Et j'ai souvent cette pensée, moi qui viens de Mont-Laurier, de me dire, mais s'il était à Mont-Laurier, comment il pourrait apprendre ce nouveau sport-là, cette nouvelle activité-là? Il y a aussi, les régions éloignées, on en a parlé, vous et moi, Marc-Saint-Onge, mais aussi ces personnes, ces associations-là qui sèment la graine.
Tu as les associations, tu as les personnes elles-mêmes et, vous l'avez bien dit, il y a des programmes qui existent, entre autres le programme d'accompagnement, qui fait en sorte que on va pouvoir se centrer sur les attentes de la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce à quoi elle aspire? Peut-être que ça peut nous paraître loufoque, certains projets, mais quand on prend le temps de l'accompagner et de regarder quels sont les accommodements possibles, parfois on trouve des ingéniosités tellement grandes. Vous savez, il y a une région avec laquelle je travaille. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, ils appellent ça, je vais juste vous donner l'expression, un citoyen accompagnateur. Mm-hmm. Donc, dans cette petite municipalité-là, il y a un tag, hein, une espèce de macaron qu'on offre, et que si la personne handicapée veut faire quelque chose, elle sait que cette personne-là, elle est ouverte à lui donner des conseils, à l'aider. Mm-hmm. Ouais, il y a des aspects novateurs comme ça, qui sont des pratiques qu'on pourrait qualifier comme d'inspirantes, qui deviennent drôlement intéressantes pour soutenir une pratique dans une région plus éloignée, par exemple.
Ce sont ce que vous appelez les pratiques inspirantes, je pense, Marc-Saint-Onge.
C'est un exemple de pratique qui pourrait être inspirante, oui.
Oui. Maintenant, dans les missions de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, j'imagine qu'il y a beaucoup la sensibilisation aux organismes, bon, notamment dans des lieux, dans des régions où l'offre n'est peut-être pas si importante, de les amener à créer des loisirs, des activités pour des personnes qui vivent avec différentes limitations?
Bien sûr que ce qu'on vise, c'est faire la promotion de l'accessibilité aux loisirs, mais on vise aussi beaucoup le développement, vous l'avez bien traduit. Donc, ce que ça entend, c'est que moi, je travaille avec l'ensemble des représentants régionaux qui, eux, travaillent avec l'ensemble des organisations locales pour qu'on soit capable de répondre aux réalités régionales. Hein?
Oui.
Une région qui a une moins forte densité populationnelle, c'est sûr qu'on peut même moins mettre en place une équipe de fauteuils roulants, de personnes qui jouent basket en fauteuil roulant, par exemple. Un très vaste territoire, ça peut être plus restreignant. Donc, on trouve des solutions alternatives. On trouve des solutions dans lesquelles il y a différentes clientèles qui peuvent vivre des activités et qui deviennent drôlement intéressantes. Oui, oui. Il y a des aspects novateurs qui se passent à peu près partout au Québec, pas juste au Québec, mais notamment au Québec, et qui deviennent drôlement riches et de voir toute l'ingéniosité des gens qui sont là.
Donc, ce que j'entends, Marc Saint-Onge, c'est qu'il y a de l'ouverture auprès des organismes avec lesquels vous travaillez.
Ah oui, énormément d'ouverture, je vous dirais. Avec les gens avec lesquels je travaille, c'est d'abord et avant tout une centration sur la personne et c'est une passion de pouvoir les accompagner dans la réalisation parfois de leurs rêves, de leurs ambitions, de leurs désirs. C'est des gens qui, les personnes handicapées, ce sont des gens qui veulent vivre comme tout le monde.
Oui.
Ce sont des gens qui veulent participer à la vie économique, qui veulent participer à la vie sociale. Ce sont des gens qui veulent être, non pas comme dépendants du système, mais être un citoyen actif à part entière.
Oui.
Oui, oui. Et l'ensemble des régions avec lesquelles je travaille convergent tous vers de tels objectifs. Oui.
Est-ce que les personnes qui participent à ces activités de loisirs mis de l'avant par l'association sont dans des groupes où tous les participants sont en situation de handicap ou parfois il y a aussi cette mixité entre des personnes qui ne vivent pas nécessairement avec un handicap et d'autres qui sont en situation de handicap?
C'est intéressant ce que vous dites. À une certaine période de temps, on cherchait strictement à ce que les personnes vivent avec toutes les autres, dans les activités génériques offertes par la municipalité, tout ça. Et on mettait un peu de côté les activités un peu plus dites ségrégées. Il y a des nuances qu'on apporte beaucoup aujourd'hui, parce que on peut très bien concevoir qu'un groupe de personnes qui ont une déficience intellectuelle apprécie particulièrement leur soirée de danse le vendredi soir parce qu'elles se retrouvent entre elles. Donc, il y a des activités qui se trouvent dans des situations de plus grande mixité, et d'autres qui sont très, très intéressantes, qui se trouvent avec des groupes plus réservés, allant même dans des lieux plus spécialisés aussi. Il faut comprendre la personne sur ce qu'elle vit, sur son expérience, pour nous permettre de comprendre pourquoi c'est important de préserver de telles activités dans lesquelles il y a du non-mixte, mais dans la mesure où c'est pas que qu'on leur propose. Il faut qu'ils aient accès aux activités de l'ensemble de la population.
Oui, et j'imagine que dans le cas où il y a cette rencontre-là, il y a de nombreux avantages aussi pour la personne qui ne vit pas en situation de handicap et qui connaît très peu sur la réalité, sur les enjeux, d'être en contact avec des personnes différentes peut amener à plus d'ouverture également, une meilleure compréhension.
Fondamentalement, j'ai fait quelques focus group et entre autres, j'avais des personnes qui étaient ce que j'appelle des moldus, dans le bon jargon, c'est-à-dire des personnes non handicapées.
Oui.
Et j'avais aussi des personnes handicapées et dans le focus group, les personnes handicapées nous disaient, moi, d'avoir accès, par exemple, à la piscine qui est adaptée en fonction de mes besoins, ça me permet d'être autonome, même si j'ai besoin d'un accompagnateur pour mettre mon maillot de bain, par exemple, parce que j'ai plus de membres inférieure ni supérieure, j'ai besoin de quelqu'un. Mais quand j'arrive dans l'eau, je peux me baigner, je peux être seul, mon accompagnateur peut faire. Donc, cette personne-là me disait tous les bénéfices qu'elle en procure de pouvoir partager des lieux communs avec tout le monde, puis de pouvoir échanger. Mais les gens des moldus, les gens de la communauté me disaient, moi, de voir qu'une personne qui n'a pas de membre supérieur ni inférieur peut être aussi autonome dans des ressources comme on les a, pour moi, ça change complètement le regard que j'ai sur cette personne-là Et ça nous amène à considérer cette personne-là davantage comme des citoyens à part entière.
Oui.
C'est fabuleux.
Oui.
C'est fabuleux par des petits gestes concrets ou dans lesquels on n'a même pas besoin de parler, simplement que la personne handicapée puisse être heureuse dans ce qu'elle vit. C'est fantastique.
Oui. Ça apporte beaucoup de richesse dans la vie, dans un parcours de vie et dans les rencontres, les dialogues que l'on peut faire. Et ça se passe dans le plaisir, parce que le loisir est fait pour le plaisir. Et si ça peut engendrer d'autres bienfaits, bien sûr, c'est le bienvenu. Sur le site de l'Association québécoise pour les loisirs des personnes handicapées, aqlph.qc.ca, il y a une liste d'activités, d'organismes, d'associations partout au Québec, Marc-Saint-Onge, pour promouvoir le loisir pour des personnes avec différentes limitations. Si des gens nous écoutent en ce moment, qu'ils ont envie de démarrer une ligue, un cours de... ils vous appellent et on peut discuter pour créer de meilleures ressources pour ces personnes?
En fait, j'ai une expression qui dit « il ne faut pas réinventer le fauteuil à quatre roues ». Ce que ça veut simplement dire, c'est que parfois, il y a de nombreuses activités qui existent et qui ne sont pas suffisamment connues.
Mm-hmm.
Donc, dans un premier temps, regardons ce qui existe. Et dans un deuxième temps, si ça n'existe pas, regardons quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les forces, les facilitateurs qui vont faire en sorte qu'on sera capable de le mettre en place. Mais nous, on peut orienter, on peut supporter, on peut diriger, on peut contribuer très certainement à de nombreux besoins, oui.
Marc-Saint-Onge, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
C'est un plaisir réciproque, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
Selon le site du directeur de santé publique de Montréal, on dénombre annuellement au Québec environ 13 300 chutes qui, bien sûr, vont entraîner l'hospitalisation d'une personne, souvent une personne âgée. Dans 50 % des cas, la chute a lieu dans la maison. La personne aurait pu être facilement évitée. On le sait, les séquelles d'une chute peuvent être graves, entraîner des séquelles à long terme et sur la santé globale de la personne âgée. Il y a des moyens efficaces pour les prévenir. Et j'en parle avec Carole Genet, elle est répondante régionale en prévention des chutes au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Carole Genet, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui du programme PIED qui est un moyen, en fait, efficace de prévenir les chutes. Ça a été créé comment, ce programme-là, Carole Genet?
Premièrement, le programme PIED signifie Programme intégré d'équilibre dynamique, qui a été réalisé en 2002, sauf qu'il y a eu des différentes mises à jour à partir de 2011 et actuellement, on est en train de procéder à sa dernière mise à jour. C'est un programme qui vise à prévenir des chutes à long terme auprès des personnes âgées qui vivent à domicile. Quand mm-hmm. on parle de personnes âgées, on parle particulièrement des personnes de 65 ans et plus. Ils vivent donc à prévenir les chutes et fractures. C'est un programme aussi qui est offert en groupe auprès de 10 à 15 participants. Le but aussi de ce programme-là, c'est d'améliorer l'équilibre et la force des jambes. On a vu qu'il y avait des effets dans le but de prévenir les chutes à long terme. Développer aussi chez les aînés la capacité d'aménager d'une façon sécuritaire les pièces de leur domicile.
Mm-hmm.
Après ça, je pourrais détailler un peu quelles sont les actions à ce niveau-là. Il y a aussi améliorer le sentiment d'efficacité dans le but de prévenir les chutes. Donc, travailler aussi à ce que les aînés acquièrent une certaine confiance dans le but de faire des changements. Souvent, il y a la peur de tomber qui provoque aussi cette perte de sentiment d'efficacité-là.
Ouais. Et Carole, souvent, la crainte de tomber amène moins d'activité physique.
Exactement, oui.
L'activité physique, ben, ça prévient aussi les chutes. Là. C'est comme une roue qui tourne.
Tout à fait. Sauf que le programme pied, c'est un programme multifactoriel. Donc, on va agir sur plusieurs facteurs de risque. On inclut le volet exercice, qui est un volet exercice qui est important. Mais on va aussi agir au niveau du domicile. Comme vous l'avez nommé, il y a beaucoup, la majorité des chutes chez les 65 ans et plus ont lieu à domicile. Alors, c'est pour ça qu'on mise sur l'aménagement sécuritaire des chutes. Quand vous parlez de la peur de tomber, c'est justement un facteur important parce qu'on n'est pas obligé d'avoir fait une chute pour avoir peur de tomber. Mais la peur qui s'inscrit fait en sorte qu'on se retire progressivement des activités de loisirs. Ça peut être des activités physiques. Et puis, éventuellement, en sortant moins, bien, on perd une certaine autonomie.
Mm-hmm.
Et on a moins de capacité pour faire les activités de la vie quotidienne, les bains, le ménage, l'épicerie, etc. Donc, ça crée une perte d'autonomie puis éventuellement une certaine perte d'incapacité. Là.
Ouais.
Alors, ça, c'est des conséquences majeures des chutes là, ou de la peur de tomber.
Oui, c'est ça. Avez-vous l'impression, Carole, dans vos observations, que la peur de tomber entraîne justement la chute? C'est-à-dire que plus une personne a peur de tomber, mais plus ça risque d'arriver.
Mais dans un certain sens, c'est le fait d'avoir peur, il y a un certain retrait des activités.
Oui.
En ayant moins d'activités, on bouge moins. Et ce fait-là, donc, on diminue nos capacités
d'équilibre.
D'équilibre, entre autres, la proprioception. Par les exercices, on travaille la proprioception. C'est de comprendre, c'est d'avoir une certaine conscience de nos membres dans l'espace. Alors, si on a à éviter de trébucher, de glisser ou tout ça, c'est des moyens qui peuvent nous aider avec l'équilibre, avec la force et la souplesse des jambes aussi.
Ouais.
Alors, moins on bouge, moins on sort, moins on est actif d'une certaine façon, plus on atteint ces capacités-là. Donc, on est beaucoup plus à risque à ce moment-là.
Ouais. Je le disais tout à l'heure, les chutes peuvent entraîner des hospitalisations, ce qui, bon, a des conséquences très graves et aussi des conséquences sur la santé globale de la personne qui peut, après, bon, entraîner plusieurs soucis. Qu'est-ce que vous avez observé par rapport à ces conséquences-là?
Bien, il y a des conséquences, mais juste pour parler un petit retour aussi sur des petites données par rapport à la problématique en santé publique. On dit qu'il y a quand même 90 % des personnes de 65 ans et plus, ça c'est les données de 2015, qui font une chute par année. Ça peut engendrer, donc vous l'avez nommé, à peu près 13 à 14 000 hospitalisations. Puis parmi ces hospitalisations-là, il y en a quand même une grande partie qui sont à cause des blessures assez graves.
Ouais.
Entre autres, on parle de fractures. Il peut y avoir aussi la fracture de la hanche, mais la fracture de la hanche, c'est la deuxième cause d'hospitalisation pour la clientèle de 65 ans et plus.
Ouais.
Alors, puis souvent, ça dure en moyenne un 15 jours. Puis souvent, la capacité motrice, donc la capacité de marcher, est difficile à récupérer.
Mais
après.
Oui, c'est entravé, c'est sûr. Oui.
Puis après ça, ça peut entraîner justement une perte d'incapacité, puis là, jusqu'à des fois rendre la personne incapable de vivre à domicile et faire des hébergements. Donc, aller en hébergement. Donc, c'est quand même un point important. Il y a des conséquences importantes sur la santé et la qualité de vie des personnes âgées.
Et de savoir que l'on peut les prévenir avec ce programme-là, je trouve que ça a quelque chose... Bon, c'est un outil qui est concret d'une part, mais bon, il n'y a pas de fatalité. Il y a des moyens de prévenir les chutes. Bon, on comprend que le programme PIE, Programme intégré d'équilibre dynamique, s'adresse aux personnes de 65 ans et plus. Carole, est-ce qu'il y a des personnes peut-être davantage ciblées par le programme? Je pense à des personnes qui vivent avec, par exemple, la maladie de Parkinson ou d'autres genres de maladies qui sont sont peut-être encore plus susceptibles de vivre un manque d'équilibre?
Par rapport, je vais juste compléter une chose juste avant de vous répondre, que le programme il est offert, c'est un programme de 12 semaines, mm-hmm. puis il est constitué de 3 volets. Donc, on a parlé tantôt d'exercice en groupe, qui est offert 2 fois par semaine. Il y a aussi à peu près une demi-heure qui est rajoutée à la continuité d'une séance d'exercice qui va parler des informations santé dans le but d'aménager le domicile. Puis il y a aussi une routine qui est suggérée à faire à la maison, une routine facile à peu près de 30 minutes. Mm-hmm. Alors, vous savez, surtout des personnes âgées qui sont 65 ans et plus, qui vivent à domicile, qui sont préoccupées par leur équilibre, par les chutes, mm-hmm. qui ont fait une chute ou qui n'en ont pas fait, qui peuvent avoir peur de chuter, mm-hmm. qui sont intéressées à suivre ce programme-là de 12 semaines. Il y a un questionnaire santé là, pour justement vérifier les problématiques ou autres, ou les limitations dans le but qu'ils soient adaptés le plus possible à ces personnes-là. Parce que c'est un programme de groupe, il faut vraiment que ça soit bien... la bonne clientèle qui suivent le programme. Alors, les gens qui font des chutes à répétition, les gens qui ont besoin d'une marchette ou qui ont certains problèmes de motricité, c'est peut-être pas le programme le plus adéquat pour eux. À ce moment-là, on les réfère soit à leur médecin ou soit au CLSC. Mmh.
C'est un programme qui est gratuit, si je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, exactement. Oui, c'est quand même important de le souligner. C'est un programme qui est gratuit, qui est offert dans les différents CLSC à travers l'île, qui est offert 3 fois. Habituellement, il y a 3 séances. 3 séances par année, 3 séances de 12 semaines. Alors, habituellement, c'est à peu près à la mi-septembre, à la mi-janvier ou fin janvier, puis à peu près à fin avril.
Mm-hmm. Alors, savez-vous, Carole, si c'est offert ailleurs que sur l'île de Montréal?
Oui, c'est offert partout dans la province, ce programme-là. C'est sûr que ici, c'est sur l'île de Montréal, c'est 3 fois par année. En moyenne, chaque CLSC devrait offrir ce programme-là 3 fois par année. Ça peut varier d'une région à l'autre selon les besoins et les spécificités des régions.
Alors, on se renseigne.
Oui, tout à fait. Ça a été reconnu efficace au niveau de la prévention des chutes et de l'amélioration des d'équilibre. Alors, il a été déployé à travers la province, ce programme-là.
On se renseigne donc auprès de son CLSC ou de son CIUS. Carole Genet, vous êtes répondante régionale en prévention des chutes pour le programme intégré d'équilibre dynamique du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bye-bye.
Au revoir.
Bonjour, c'est encore moi pour le dernier segment de cette émission. Vous savez, j'aime vous parler d'entreprises ou d'initiatives inspirantes. Et quand ça se passe ici, au Québec, je trouve que c'est encore plus important de le souligner, de le rappeler, de le faire connaître. Je vous parle aujourd'hui de cette entreprise locale de Mélina Deschênes, qui, elle, est une éducatrice spécialisée psychosociologue. Psychosociologue, hein, c'est rare que l'on entend ce titre-là. Elle a créé cette entreprise qui s'appelle NEU, Nouveaux outils expérimentaux utiles au dénouement. Elle a également créé un documentaire qui s'appelle NEU, donc du même titre. Ça semble un peu complexe et pourtant, c'est un organisme ou une entreprise, là, plutôt pour être plus clair, qui offre des services aux familles. Donc, des boîtes à outils pour mieux développer les relations interpersonnelles, du coaching, des ateliers, des conférences, et aussi qui met de l'avant quelque chose dont on entend très peu parler encore au Québec, le team building familial, c'est-à-dire une façon de se ressourcer en famille, de tisser des liens plus fort ou, bon, du moins de tisser des liens. Parfois, hein, faut commencer par la base et de vivre des moments privilégiés, des moments inoubliables. Le team building familial est montré dans ce documentaire là, dont je vous parlais, le documentaire NEU. Vous pouvez visionner des extraits sur ulule.com où on voit 3 familles. Enfin, on suit 3 familles qui vivent cette expérience de team building familial. Vous pouvez également aller sur le site web de l'entreprise de Mme Deschênes, www.neu.net. Vous allez voir les nombreux services qu'elle y offre, les outils également. C'est une forme de thérapie, de coaching pour résoudre des conflits familiales. Tout ça est dans la résolution de problèmes et tout ça m'a apparu extrêmement positif dans l'empowerment aussi. Donc, à découvrir l'entreprise locale Neu et également le documentaire du même nom sur ulule.com. Il y avait une projection aujourd'hui, mais c'est un petit peu plus tôt en avant-midi. J'imagine qu'il y aura d'autres façons de visionner ce documentaire signé Mélina Deschênes et son équipe. Voilà, c'est la fin de cette émission de C'est bon pour la santé. Merci à tous les participants qui, qu'on a pu entendre et qui ont été présents dans le cadre de l'émission. Isabelle Genninet, Amélie Seda, Christian Sénéchal, oui, Marc Saint-Onge et bien sûr Carole Genet. C'est Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. C'est Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna aux médias sociaux et Martin Forgue à la recherche. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Et bien, manifestez-vous sur Twitter, Facebook. On aime vous entendre. Bye-bye.